BPM Vernon 99.3.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de BPM et c'est en faveur de votre émission BPM Magazine. Nous sommes ravis de vous proposer cette émission où cette semaine nous avons l'honneur de recevoir l'association éducative des Portes de l'Heure présentée par Cyrilla Lefebvre. Alors tout d'abord, bonjour Cyrilla, comment allez-vous ?
Bonjour Romain, ça va très bien, merci.
Ça va bien, en ce moment il fait plutôt beau, assez chaud quand même, là on doit le dire dans les studios, mais ça fait plaisir.
Oui, c'est pas faux, mais oui, ça va, très bien.
Avant de parler de l'association, on va quand même parler un petit peu de vous. Qui êtes-vous pour nos auditeurs ? Présentez-nous un petit peu votre parcours.
Alors, je suis Cyrilla Lefebvre, je suis mariée, maman de 4 enfants. Et il y a quelques années, j'avais mon fils qui n'était pas très heureux à l'école. Et du coup, j'ai cherché une solution et j'ai trouvé cette solution. En l'occurrence, cette solution, c'était l'école Saint-Joseph-L'Espérance qui se situe à Vernon. Rue André Bourdet, en plein centre, pas très loin de la collégiale. Et j'ai découvert cette école où j'ai mis mon fils. Puis il est devenu tellement heureux que du coup, j'ai mis mes autres enfants. Et puis un jour, on m'a demandé un petit coup de main, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et puis finalement, j'ai intégré l'association qui gère cette école, et donc qui est l'association éducative des Portes de l'Heure, la EPE. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans cette association.
C'est comme ça que vous avez atterri même dans le milieu associatif ? Vous n'aviez jamais fait d'association avant ? C'était votre première ?
J'ai eu toujours l'habitude de m'engager là où je suis, que ce soit... Alors, il s'avère que je suis catholique, donc je me suis souvent engagée dans ma paroisse, tout simplement, dans les mouvements de jeunes, comme le scoutisme. Ça a été quelque chose de naturel. L'aide aussi à Lourdes, pour le pèlerinage des malades. Voilà, c'est quelque chose de naturel dans ma culture familiale, d'aller donner des petits coups de main par-ci, par-là, là où il y a besoin, oui.
Et quelque chose qui se rapproche beaucoup à tout ce qui est religion, tout ce qui est religieux, avec souvent les personnes que j'ai percevoir qui se disaient religieuses étaient souvent impliquées dans le tissu associatif. Ça, c'est une valeur qui compte.
Oui, c'est une valeur qui compte. Je ne cherche pas absolument l'engagement religieux à tout prix. En revanche, c'est vrai que lorsqu'on est catholique, et même dans beaucoup de religions, mais en l'occurrence lorsqu'on est catholique, l'aide aux autres, le service, ça c'est quelque chose de majeur. Oui, c'est une valeur très importante, oui.
Passons maintenant donc du coup à l'association éducative des Portes de l'Heure. Parlez-nous donc de cette association, qu'est-ce que c'est ? Elle gère aussi une école, c'est ça ?
Exactement. En fait, cette association, elle a été créée il y a quelques années dans le but de créer une école indépendante. Il existe plusieurs systèmes scolaires. Il existe les écoles publiques, que tout le monde connaît. Il existe les écoles privées dites sous contrat, que la plupart des gens connaissent aussi. Et ce que les gens connaissent un petit peu moins, ce sont les écoles indépendantes, qu'on appelle également les écoles hors contrat. Ce sont des écoles qui ne sont pas du tout subventionnées par l'État. C'est la grande différence par rapport aux autres établissements scolaires. Et du coup, fatalement, qui dit pas de subvention de l'État, dit des tarifs différents, d'une part. Mais également, comme il n'y a pas d'obligation de l'État, il n'y a pas non plus d'obligation de l'établissement scolaire vis-à-vis de l'État, si ce n'est bien sûr... de respecter le tronc commun obligatoire, ça c'est une obligation en France, bien sûr, c'est la base, mais avec une liberté quand même scolaire, une liberté d'enseignement, une liberté de méthode, une liberté, voilà, si l'institutrice a envie d'utiliser telle ou telle méthode, tel ou tel manuel scolaire, voilà, ça c'est son libre choix, et si elle a envie d'aller beaucoup plus loin que le tronc commun obligatoire, elle a le droit. Ce qu'il faut juste, c'est faire au moins ce minimum obligatoire, mais si on a envie de faire beaucoup plus, bien sûr, c'est autorisé. Et donc, du coup, ce qui dit école indépendante sans subvention, là, en l'occurrence, dans ce cas-là, on a deux possibilités. Soit on finance tout, parce qu'il y a quand même des institutrices, il y a des gens qui viennent aider. Donc, soit on les paye uniquement avec les scolarités payées par les parents. Et dans ces cas-là, ça fait une école réservée uniquement à un petit groupe de privilégiés qui ont beaucoup d'argent. Soit on opte pour un autre système, on décide de mettre des scolarités moins élevées pour pouvoir s'ouvrir à tous ou au plus grand nombre. Mais dans ces cas-là, il y a une part à aller chercher en don. Donc ça veut dire qu'il faut aller trouver des donateurs. Donc forcément, vous l'aurez compris, c'est plutôt ce deuxième système qui a été choisi. Et donc du coup, cette association s'est montée pour créer l'école, mais aussi ensuite derrière pour la gérer. Une école, c'est une entreprise, tout simplement, avec des ressources humaines, un service financier, une logistique, des locaux, de la communication. C'est pas pour rien que je suis là aujourd'hui. Donc voilà, tout ça fait partie de ce qui se passe dans n'importe quelle entreprise, y compris dans une école. Donc il y a une association pour ça, ce sont que des bénévoles qui gèrent cette école au quotidien. On a une directrice qui, elle, est salariée et vraiment voilà, directrice de l'établissement scolaire et gère la partie pédagogique. C'est elle qui gère les maîtresses, les élèves, les relations avec les parents, etc. Et puis nous, voilà, en fait, on gère tout le reste pour qu'elle ait vraiment uniquement à se concentrer sur ses élèves. Et donc le rôle de l'association, c'est cette partie gestion d'entreprise, mais également cette grosse partie qui est la recherche de dons permanents, puisque voilà, on est une entreprise un petit peu particulière parce que on a on fournit un produit, mais on fournit également l'argent pour le payer.
Quand ce qui est vachement intéressant, quand ce que vous dites, c'est que c'est pas l'école, c'est pas l'association qui est venue après l'école, c'est l'école qui est venue après l'association. Donc c'était vraiment un souhait de base de sortir un petit peu du milieu scolaire qu'on connaît tous, j'ai envie de dire, pour découvrir une nouvelle branche.
Exactement, c'est exactement ça. Ce sont des parents, c'est tout simplement au départ un groupe de familles, des familles qui se sont réunies en se disant, ben voilà, aujourd'hui, on cherche autre chose, une autre alternative. C'est pas forcément, on n'est pas content de ci, on n'est pas content de ça, etc. C'est pas forcément quelque chose qui a été monté contre un système scolaire qui serait défaillant, etc. C'est vraiment, voilà, on a envie d'autre chose pour nos enfants. On le trouve pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, soit on se plaint, soit on le crée nous-mêmes. Et c'est finalement ce qui a été ce côté un peu plus positif, dynamique qui a été choisi. Et donc, du coup, ils se sont réunis pour créer cette école. Elle a été créée en 2016. Elle a ouvert ses portes en 2016 avec une seule classe de 16 élèves sur 4 niveaux. Ça allait de la grande section de maternelle au CE2. Et puis l'année suivante, il y a une deuxième classe qui a été créée avec le CM1. Puis l'année suivante, une troisième classe. Et aujourd'hui, nous avons 4 classes de chacune des doubles niveaux. Donc petite et moyenne section, grande section CP, CE1, CE2 et CM1, CM2. Et donc avec 4 institutrices. Et aujourd'hui, nous avons 53 élèves.
D'accord.
Donc voilà, nous terminons la 5e année en ayant multiplié par plus que par 3 nos effectifs, et puis en ayant multiplié par 4 notre nombre de classes. Donc c'est une belle croissance.
Ouais, depuis 5 ans, c'est quand même assez impressionnant, assez intéressant, parce que comme on l'a dit, la grande majorité des Français ne connaissent pas, n'ont pas entendu parler des écoles indépendantes comme vous gérez du coup au final. Et du coup, ça prouve qu'il y a quand même des gens qui connaissent et qui s'y intéressent.
Il y a une vraie demande en fait parmi nos élèves. On trouve aussi bien juste des gens qui, comme les fondateurs de l'école, cherchent juste autre chose. Après, on accueille aussi d'autres élèves qui parfois ont été blessés par des expériences précédentes. On accueille des enfants également avec, voilà, j'ai plusieurs souvenirs d'enfants qui sont arrivés avec des vraies phobies scolaires parce qu'ils avaient été traumatisés par une situation avec un élève ou une situation avec une maîtresse, etc., qui étaient vraiment en souffrance et qui arrivent, voilà, dans une école différente avec des petits effectifs où la maîtresse peut prendre le temps de suivre chaque élève individuellement. Il n'y a pas une grande classe avec plein de monde, beaucoup de bazar et puis une ligne à suivre, la même pour tout le monde. Voilà, il y a des petites classes, des petits effectifs pour permettre aux maîtresses de prendre du temps pour chacun. Et puis si pour apprendre, j'en sais rien moi, pour apprendre par exemple les additions, et ben il y a telle méthode qui marche mieux avec bidule et telle méthode qui marche mieux avec machin, et ben dans ce cas-là, et ben il y aura une méthode pour bidule et une méthode pour machin. Mais voilà, la maîtresse va prendre le temps de s'adapter aux besoins de chacun, parce qu'on a tous des intelligences multiples. Il n'y a pas une forme d'intelligence. Il y en a qui sont plus visuels, il y en a qui sont plus auditifs, il y en a qui sont kinesthésiques. Donc c'est l'apprentissage par la manipulation. Et puis il y en a qui sont un peu des deux, un peu des trois. Et en fonction de ça, on n'apprend pas de la même manière. Et donc du coup, voilà, les maîtresses s'adaptent à chacun. Et ça convient énormément à des enfants qui ont été, voilà, qui ont été blessés, à d'autres qui peuvent être dyslexiques, dyscalculiques, dysorthographiques, etc., à d'autres troubles, mais également à tout enfant, même ceux qui n'ont pas nécessairement de troubles particuliers, bien sûr.
Et c'est une réponse à l'un des plus gros problèmes, je trouve, aujourd'hui au sein du système éducatif, c'est les grandes disparités de niveau qu'il peut y avoir dans les classes, qui, comme vous l'avez dit, peuvent être trop grandes, et du coup, on n'a pas le temps pour s'intéresser à tout le monde, alors que là, ce côté petit groupe permet d'homogénéiser le niveau, c'est ça?
Alors, plus ou moins, oui. C'est vrai que dans les classes très nombreuses, j'ai toujours été très admirative de ces maîtresses qui ont parfois 30 élèves dans une classe de CP avec des enfants qui apprennent à des rythmes très différents. Voilà, j'ai toujours eu vraiment une vraie sincère admiration parce que ça doit être un casse-tête terrible de réussir à aider l'un à rattraper les autres, mais en même temps à faire en sorte que un autre ne s'ennuie pas trop parce que lui, il a déjà tout compris, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fascinée. Là, l'objectif n'est pas forcément une homogénéisation du niveau, c'est plutôt de prendre chaque enfant là où il est et de l'emmener à donner le meilleur de lui-même. Si le meilleur de lui-même, c'est le même niveau que les autres, eh ben, très bien. Mais si le meilleur de lui-même, c'est un peu au-dessus ou un peu en dessous, eh ben, il ira un peu au-dessus ou un peu en dessous. Et on ne lui demandera pas de forcément se faire tout comme tous les autres. Mmh. Et donc, il y aura une vraie adaptation. Je me souviens... Et c'est vraiment quelque chose qui, en termes de niveau, mais aussi en termes de méthode, moi, je me souviens qu'il y avait une année où mon fils, il tenait pas en place. Il était tout le temps debout quand il travaillait. Mais... Et ben, quand il avait besoin d'être debout à l'école, il restait debout à l'école, c'était pas grave. Voilà, c'est des choses comme ça, où dans une classe avec 30 élèves, on peut pas se permettre d'avoir l'un qui se met debout, l'autre accroupi, l'autre qui fait le tour de sa table, deux autres qui sont assis, puis il y en a un qui a besoin de calme et l'autre qui a besoin de parler.
Ouais.
On fait comment ?
Ça devient vite un bazar, oui.
Exactement. Avec des petits effectifs, on peut beaucoup plus facilement autoriser des petites digressions par rapport à un système plus classique.
Vous nous disiez qu'au sein de l'école, vous suiviez donc ce tronc commun. Qu'est-ce que vous ajoutez en plus au niveau de ce tronc commun, peut-être un autre enseignement, d'autres disciplines qu'on n'aurait pas enseignées au même moment à l'école?
C'est surtout dans les méthodes la grande différence. Parfois, évidemment, il arrive d'aller plus loin quand une maîtresse sent qu'elle a une classe qui avance bien sur un domaine, quand la maîtresse a pu prendre le temps d'aider chacun à avancer. Eh ben, si elle peut aller plus loin, génial, elle continue, elle s'éclate. Mais après, ça va être surtout, vous voyez, dans les méthodes, s'il faut du Montessori pour certains, s'il faut du NUITS, s'il faut appliquer une méthode particulière pour aider l'enfant à la concentration, etc. Voilà, ça va être les petits plus. Typiquement, il y a beaucoup de gymnastique cérébrale, il y a beaucoup de... les maîtresses travaillent beaucoup avec les neurosciences également, qui apprennent beaucoup de choses justement sur le fonctionnement du cerveau. Il y a également... alors forcément, comme dans beaucoup d'écoles, il y a évidemment un enseignement de l'anglais. Il y a des leçons de choses qui sont parfois en live avec de vrais... On a déjà vu débarquer des poules à l'école, on a déjà vu débarquer un chien à l'école, on a déjà vu un faisan à l'école. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui permettent d'apprendre en s'amusant. Il y a beaucoup de manipulation également, parce que ça aide aussi beaucoup les enfants à retenir. Il n'y a rien de mieux que de faire pour retenir. Donc il y a beaucoup de diversité de méthodes. Notre équipe éducative est très à l'écoute des méthodes, justement. Il y a des méthodes qui fonctionnent, qui ont fait leur preuve depuis 50 ans et qui parfois sont encore d'actualité dans notre école. Mais il peut y avoir aussi parfois des méthodes qui sont toutes neuves. L'objectif, c'est pas absolument de se tenir à une manière de faire, c'est vraiment de chercher à chaque fois la meilleure. Et si pour ça, il faut se former à nouveau, se former en permanence, si pour ça, il faut se renseigner, chercher, fouiner, lire des livres, des articles, rencontrer des gens, eh bien ça, elles vont le faire pour vraiment être toujours en mesure d'offrir le meilleur à chaque élève, pour pouvoir ensuite lui permettre à lui d'offrir le meilleur de lui-même.
Au niveau de la gestion de l'école, d'une manière assez concrète, comment est-ce que vous gérez tout ça? Puisque, comme vous l'avez dit, vous êtes tous bénévoles.
Absolument.
Dans cette gestion de l'école, on va dire. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous gérez tout ça?
Eh bien, nous avons tout simplement... une présidente, un vice-président, nous avons un responsable des ressources humaines, nous avons un trésorier, nous avons toute une équipe avec chacun des rôles définis, comme dans une entreprise. Et donc voilà, en l'occurrence, on a la chance d'avoir beaucoup de gens qui ont de vraies compétences, enfin d'ailleurs tous qui ont de vraies compétences, mais en l'occurrence qui sont des professionnels du métier, c'est-à-dire que celui qui gère nos ressources humaines est un responsable RH dans son métier. Notre trésorier est également bien habitué à manipuler les chiffres dans son métier également. Ce sont des compétences sur lesquelles on s'appuie. Et ça se passe finalement comme dans une entreprise classique. On utilise tous nos compétences. Alors, parfois, il y a des compétences qu'on découvre. on apprend sur le terrain. Mais sinon, c'est tout simplement de l'engagement. On sait pourquoi on le fait. Parce qu'il y a des enfants derrière à qui ça sert, à qui ça apporte beaucoup. Et donc, du coup, voilà, cet engagement bénévole, effectivement, c'est aussi pour nous, on sait tellement pourquoi on le fait que nous aussi, ça nous apporte, finalement.
Et au niveau du choix, alors que ce soit du directeur, de la directrice, des enseignants ou des enseignantes, comment est-ce que ça se passe? J'imagine que pour les enseignants et enseignantes, vous êtes en concertation avec soit le directeur, soit la directrice. Mais voilà, comment est-ce que ça se passe, ce choix pour vos enfants?
Alors, la directrice fait partie des fondateurs de l'équipe fondatrice. Donc, c'est également elle qui insuffle cette dynamique depuis le départ. Elle a toujours eu carte blanche sur toute la partie pédagogique. Elle a énormément de talent, donc on n'a jamais eu de problème à lui faire une grande confiance et donc, du coup, effectivement, à lui donner cette carte blanche totale. Et du coup, elle a également cette carte blanche sur le recrutement des institutrices et même des bénévoles, parce qu'on a aussi, nous avons des institutrices qui sont salariées, mais nous avons également un contrat en service civique et puis des bénévoles qui viennent. Et c'est vraiment, c'est elle qui a cet instinct, qui connaît les besoins des élèves, qui connaît ses classes, qui connaît le besoin de l'école et qui donc va faire ses recrutements, va choisir elle-même les profils et, en fonction des compétences dont elle a besoin. Bien sûr, elle nous consulte également, mais c'est vraiment elle, nous on lui fait toute confiance. Et si vraiment, lorsqu'on rencontrait une institutrice à recruter, si vraiment on avait un doute énorme, bien sûr, elle serait à notre écoute, mais c'est encore jamais arrivé.
C'est pas le cas, ouais.
Non, on lui fait toute confiance.
Au niveau de la gestion de la crise sanitaire, comment est-ce que ça s'est passé parce que du coup, c'est en plein pour vous, pour l'association. Comment est-ce que vous avez dû gérer ça pour l'école?
C'est effectivement assez complexe. Alors, il y a la partie école et puis il y a la partie association qui ont vécu la crise de manière distincte. Pour la partie école, eh bien, tout simplement, l'école a beau être indépendante, elle est soumise aux mêmes contraintes sanitaires que toutes les écoles de France. Donc du coup, voilà, il y a eu la partie confinement comme dans toutes les écoles, l'enseignement à distance également. Alors en revanche, je ne sais pas si c'est comme dans toutes les écoles, mais j'ai entendu beaucoup de mes amis, que ce soit à Vernon ou ailleurs, se plaindre de l'enseignement à distance, me disant que c'était un casse-tête, etc., que c'était horrible. Et c'est vrai que ça, parce que je suis dans l'association, mais également maman d'élèves. Et moi, j'ai trouvé ça génial parce que, en fait, chaque semaine, on recevait par mail, tout simplement, sur une plateforme dédiée plutôt, on recevait le programme des jours à venir avec ce qu'il fallait faire, dans quel ordre le faire, comment le faire, les éléments. On avait une dizaine de pages à imprimer, on n'avait plus qu'à remplir les feuilles, on savait exactement ce qu'il fallait faire. Et finalement, c'était hyper simple. Donc du coup, ça, voilà, pour ça, on a eu beaucoup de chance. C'est vrai qu'il y a un côté très, très carré, une exigence de qualité quand même aussi qui est vraiment là. Et on sent ça, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur de l'association, bien sûr, mais aussi de la directrice, voilà, d'avoir toujours cette continuité dans la qualité d'enseignement, mais aussi du coup pour l'enseignement à distance. Donc voilà, il y a eu cette partie enseignement à distance. Et depuis, évidemment, ce sont les mêmes contraintes que tout le monde, le gel, le masque, sauf pour la petite classe, évidemment, mais sinon... Enfin, sauf pour les enfants de la petite classe, bien sûr. Voilà, mais le masque pour tout le monde, le gel, et puis la circulation un petit peu particulière. Bref, toutes les mêmes règles de distanciation sociale, etc., que dans n'importe quel établissement scolaire. Pour la partie associative, forcément, on a été contraints à s'adapter au télétravail, comme beaucoup de gens, aux réunions par Zoom, par Teams, par tout ça. Donc ça, forcément, après, il y a nécessairement des moments où on a été contraint d'avoir des réunions dans l'école parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas gérer à distance. Mais sinon, voilà, on s'est adapté comme toute autre entreprise, tout simplement.
Alors, pour conclure cette émission, comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver, vous contacter et même pour donner pour l'école?
Alors ça, c'est une excellente question. On nous trouve tout simplement sur Internet, notre site Internet, tout simplement écolesaintjosephlespérance.fr. Ou en tapant École Saint-Joseph, Vernon, on nous trouvera facilement. C'est là aussi qu'on pourra trouver un lien pour nous donner. Sinon, on est situé également 7 rue André Bourdet, donc en plein centre-ville, juste à côté de la collégiale et de la Seine. Donc on peut tout simplement aussi passer sans problème. Et effectivement, je me permets d'insister sur cette petite, sur ce petit point, puisque vous avez parlé des dons, alors je me permets de dire un petit mot dessus. Mais c'est vrai que c'est une école qui vit beaucoup de dons. En fait, la scolarité d'un enfant coûte environ 4000 euros à l'année. C'est le prix à peu près pour financer les locaux, les salaires des maîtresses, toutes les charges d'un établissement scolaire. Et sur ces 4000 euros, on en demande à peine la moitié aux parents. C'est donc qu'il faut aller chercher la moitié à chaque fois. Et donc tous les mois, l'association doit trouver 5000 euros de dons. Tout simplement, en toute simplicité, ce qui nous fait environ 60 000 euros sur l'année à trouver, à aller chercher en dons. Et donc, du coup, pour cette raison, voilà, on se mobilise toute l'année, on fait des actions parfois, on communique comme on peut, pour vraiment engager les gens à donner pour l'éducation des enfants, pour l'épanouissement des enfants, pour aider des familles qui peut-être n'en ont pas les moyens, mais leur permettre d'offrir le meilleur à leurs enfants. Et je dirais qu'il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de dons trop faibles. On a des gens qui donnent beaucoup d'argent, bien sûr, ça arrive et c'est formidable, mais on a aussi des gens qui donnent 10 euros, 20 euros, et ben c'est déjà super. Et si on a plein de gens qui donnent 10 euros ou 20 euros, et ben avec ça déjà on ira très loin. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de petits dons. Tous les dons sont les bienvenus. Et je me permets également, si vous m'y autorisez,
allez-y,
d'ajouter que notre école, elle est donc située rue André Bourdet, et elle a démarré dans des petits locaux, parce qu'il n'y avait que 16 élèves à l'époque, qu'une seule classe. Mais depuis, nous avons 4 classes. Nous aurons l'année prochaine un petit peu plus d'une soixantaine d'élèves, plus une dizaine sur liste d'attente, et qui ne seront pas pris. Pourquoi ils ne seront pas pris? C'est pas parce qu'on les veut pas, c'est parce qu'on n'a pas la place de les mettre. L'école est trop petite. Donc, nous aimerions pouvoir grandir, pouvoir ouvrir d'autres classes. 4 classes de double niveau. Et si on dédouble toutes les classes, le calcul est simple, ça fait 8. On aimerait aussi, on a un projet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est d'ouvrir une classe pour enfants à besoins extraordinaires. Les enfants extraordinaires, ce sont des enfants avec un handicap. Et ça nous tient énormément à cœur. C'est aussi un des projets, parce que c'est une école catholique, ouverte à tous, mais catholique. Et parmi les valeurs catholiques, il y a aussi cet accueil de l'autre, même lorsqu'il est faible ou différent. Et donc voilà, ça c'est un projet qui nous tient à cœur, mais pour ça, on cherche évidemment des dons, mais aussi des locaux. Des locaux, on cherche de préférence à Vernon, mais sinon autour de Vernon, ça nous va aussi. Des locaux. Alors ça n'a pas forcément besoin d'être déjà une école, mais tout simplement, ne serait-ce qu'un terrain à bâtir, ça nous convient très bien. S'il y a déjà un bâtiment, c'est formidable évidemment. Mais voilà, du moment qu'on a au moins 2000 m² de terrain, nous on déménage sans problème. Et ça, c'est hyper important aussi. Donc, on peut nous aider en faisant un don, mais aussi en nous contactant pour nous dire, j'ai mon voisin qui vend sa maison, j'ai ma voisine qui vend son terrain. Ça nous aidera beaucoup aussi.
Eh bien, merci beaucoup, Cyrilla Lefebvre.
Merci beaucoup, Robin.
Merci à vous d'être venu nous présenter l'association éducative des Portes de l'Eure. C'est tout pour votre émission BPM Magazine. Passez une excellente journée à nous écouter sur BPM.
BPM Vernon, 99.3.